20-11-63, mercredi. Je me suis réveillé à l'aube en sursaut, le cœur battant, émergeant d'un rêve dont je ne me souvenais pas. Elle sait. Elle sait quoi ? Que tu lui as menti au sujet de tous ces trucs dont tu prétends ne pas te souvenir. « Non !» j'ai dit. J'avais la voix éraillée par le sommeil. « Si !» Elle a pris soin de te dire qu'elle partirait après la dernière heure pour que tu ne te doutes pas qu'elle a l'intention de partir beaucoup plus tôt. Elle ne veut pas que tu t'en doutes avant qu'elle soit là. En fait, elle est peut-être déjà en route. Tu seras en pleine séance de kiné ce matin quand elle entrera en coup de vent. Je voulais pas y croire, mais ça semblait une conclusion logique. Alors où irai-je ? Assis dans mon lit aux premières lueurs de l'aube ce mercredi matin, la réponse m'est également apparue comme une conclusion logique. C'était comme si mon subconscient l'avait su tout du long. Le passé résonne. C'est une chambre d'écho. Mais d'abord, j'avais une ultime tâche à effectuer sur ma vieille machine à écrire. Une tâche désagréable. 20 novembre 1963. Cher Sadie, je t'ai menti. Je pense que tu t'en doutes depuis un certain temps déjà. Je pense que tu as l'intention d'arriver plus tôt aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne me reverras pas jusqu'à l'arrivée de JFK à Dallas après-demain. Si tout se passe comme je l'espère, nous aurons une longue et heureuse vie ensemble dans un lieu différent. Ce sera étrange pour toi au début, mais je pense que tu t'y habitueras. Je t'y aiderai. Je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que je ne peux pas te laisser prendre part à ça. S'il te plaît, crois en moi. S'il te plaît, sois patiente. Et s'il te plaît, ne sois pas surprise si tu lis mon nom et vois ma photo dans les journaux. Si tout se déroule comme je le souhaite, c'est probablement ce qui va arriver. Surtout, n'essaie pas de me retrouver. Avec tout mon amour, Jake. P.S. Tu devrais brûler cette lettre. J'ai embarqué la vie que j'avais vécue sous le nom de George Amberson dans le coffre de ma Chevy, à l'arrière en aile de mouette, punaisé un mot pour la kiné sur la porte d'entrée et pris la route, le cœur lourd et nostalgique. Sadie avait quitté Jody encore plus tôt que ce que j'avais prévu, avant l'aube. Moi, j'ai fermé ma porte à Eden Fellows à 9h. Elle a rangé sa coccinelle le long du trottoir à 9h15, lu le mot annulant ma séance de kiné et ouvert la porte avec le double de clé que je lui avais donné. Contre le rouleau de la machine à écrire était appuyée une enveloppe portant son nom. Elle l'a ouverte, a lu la lettre, s'est assise sur le canapé devant le téléviseur éteint et elle a pleuré. Elle pleurait encore quand la kiné est arrivée, mais elle avait brûlé la lettre, comme je le lui avais demandé. Mercedes Street était quasiment toute silencieuse sous un ciel couvert. Les petites sauteuses à la corde n'étaient pas en vue. Elles devaient être à l'école, peut-être en train d'écouter avec fascination leur maîtresse leur raconter la prochaine visite présidentielle. Mais la pancarte allouée était de retour sur la rampe branlante du porche, comme je m'y attendais. Un numéro de téléphone y figurait. J'ai roulé jusqu'à l'entrepôt de la Ward et appelé de la cabine près du quai de chargement. J'ai su sans l'ombre d'un doute que l'homme qui me répondait d'un laconique
« Yep, ici Merritt »
était celui-là même qui avait loué le 2703 à Lee et Marina. Je le revoyais encore avec son Stetson et ses bottes en serpent cousu. Je lui ai dit ce que je voulais et il a éclaté d'un rire incrédule.
« Je loue pas la semaine. C'est une petite maison chouettos, ça, mon gars. »«
C'est un trou à rats, » je lui ai dit. « Je le sais, j'y ai été. »«
Fichtre, attendez-moi une minute. »«
Non, monsieur, c'est vous qui attendez. » Je vous file $50 pour squatter dans ce trou pour le week-end. C'est quasiment un mois de loyer et vous pourrez remettre votre pancarte lundi.
Mais pourquoi voudriez-vous...
Parce que Kennedy arrive et que tous les hôtels de Dallas-Fort Worth sont complets. Je suis venu de loin pour le voir, et j'ai pas l'intention de camper dans Fair Park ni sur Dealey Plaza. » J'ai entendu le déclic d'un briquet et le chuintement d'une flamme pendant que Merritt réfléchissait. « On perd du temps, » j'ai dit. « Tic-tac, tic-tac. »
« Comment vous appelez-vous, mon ami ?»«
George Amberson. » Je commençais à regretter de ne pas avoir emménagé sans l'appeler. J'avais failli le faire, mais une visite des flics de Fort Worth était la dernière chose dont j'avais besoin. Je supposais que les habitants d'une rue où on faisait exploser des poules les jours de fête se foutaient pas mal de savoir si quelqu'un squattait la maison d'à côté. Mais prudence et mère de sûreté. J'avais cessé de tourner autour du château de cartes. Maintenant, je vivais dedans.
Je vous retrouve devant dans une demi-heure, trois quarts d'heure.
Je serai à l'intérieur, dis-je. J'ai une clé. Encore un silence. Puis...
Comment l'avez-vous eu ?
Je n'avais aucune intention d'incriminer Ivy, même s'il était toujours loin à Moselle. Par Lee Oswald. Il me l'avait donné pour que j'aille arroser ses plantes.
Ce petit morveux avait des plantes ?
J'ai raccroché et repris ma voiture jusqu'au 2703. Mon propriétaire temporaire, peut-être motivé par la curiosité, s'est pointé dans sa Chrysler à peine 15 minutes plus tard. Il portait son Stetson et ses bottes voyantes. J'étais installé dans la pièce de devant, écoutant argumenter les fantômes de gens encore bien vivants. Ils avaient beaucoup à dire. Merritt a cherché à me faire dire si Oswald était vraiment un foutu rouge. J'ai dit non, que c'était un bon gars de Louisiane qui travaillait dans un endroit d'où il aurait une vue imprenable sur le cortège du président vendredi. J'ai ajouté que j'espérais qu'il me laisserait partager son point de vue privilégié. « Enfoiré de Kennedy !» a presque gueulé Merritt. « Lui, c'en est un de coco, ah, ça c'est sûr !» « Quelqu'un devrait flinguer ce merdeux jusqu'à ce qu'il remue plus un orteil. »« Je vous souhaite une belle journée, » je lui ai dit en ouvrant la porte. Il s'est tiré, mais il n'était pas heureux, ça se voyait. C'était le genre d'homme habitué à voir ses locataires courber l'échine et ramper. Il se retourna sur le béton craquelé et effrité. « Vous laisserez cet endroit aussi correct que vous l'avez trouvé, hein ? Vous m'entendez ?» J'ai promené le regard sur la salle de séjour avec son tapis moisi, son plâtre fissuré et son unique fauteuil cassé. « Vous inquiétez pas pour ça, » j'ai dit. Je suis retourné m'asseoir et j'ai tenté de capter à nouveau la voix des fantômes. Lee et Marina, Marguerite et Morenchild. Au lieu de ça, je me suis laissé surprendre par un de mes endormissements soudains. À mon réveil, j'ai cru que la chanson que j'entendais provenait d'un rêve en train de s'estomper. « Charlie Chaplin va en France voir les dames comment elles dansent !» La chanson résonnait encore quand j'ai ouvert les yeux. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Les petites sauteuses à la corde avaient un peu grandi, mais c'était bien elles, toutes les trois, le trio infernal au complet. Celle du milieu avait des boutons, quand bien même elle paraissait au moins 4 ans trop jeune pour l'acné juvénile. Peut-être que c'était la rubéole. « Un salut pour le capitaine !»«
Une révérence pour la reine !» marmonnai-je.
Et je suis passé à la salle de bain pour me laver le visage. L'eau qui sortit du robinet en gargouillant était marron-rouille, mais assez froide pour finir de me réveiller. J'avais remplacé ma montre cassée par une Timex bon marché et j'ai constaté qu'il était 14h30. Je n'avais pas faim, mais il fallait que je mange quelque chose, alors j'ai fait un saut jusqu'au barbecue de Mr. Lee. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une pharmacie prendre une autre boîte de sachets de poudre contre les maux de tête. Je me suis aussi acheté 2 livres de poche de John D. MacDonald. Les petites sauteuses à la corde avaient disparu. Mercedes Street, à l'ambiance habituellement tapageuse, était étrangement silencieuse. Comme une pièce de théâtre avant que le rideau se lève pour le dernier acte, j'ai pensé.
Je suis rentré manger mon repas, mais les côtelettes avaient beau être tendres et savoureuses, elles ont presque toutes fini à la poubelle. J'ai essayé de dormir dans la chambre principale, mais les fantômes de Lee et Marina étaient trop présents. Un peu avant minuit, j'ai déménagé dans la plus petite chambre. Les petites filles au crayola de Rosette Templeton ornaient encore les murs, et d'une certaine façon, leur robe chasuble verte identique, le vert sapin devait être la couleur préférée de Rosette, et leurs grandes chaussures noires m'ont réconforté. J'ai pensé que ces personnages auraient fait sourire Sadie, surtout celle qui portait le diadème de Miss Amérique. « Je t'aime, chérie », j'ai dit, et je me suis endormi. 21-11-63, jeudi. Prendre un petit déjeuner m'alléchait autant que dîner la veille. Mais à 11h, j'ai eu désespérément besoin d'un café. Au moins d'une cafetière pleine. J'ai attrapé un de mes nouveaux livres de poche, « Claque la grande porte », il s'appelait, et j'ai roulé jusqu'au Happy Egg sur la route de Braddock. Le téléviseur était allumé derrière le comptoir et j'ai regardé un reportage d'actualité sur l'arrivée imminente de Kennedy à San Antonio, où il devait être accueilli par Lyndon et Lady Bird Johnson. Également de la partie, le gouverneur John Connolly et son épouse Nellie. Une correspondante, à la voix tellement excitée qu'on aurait dit qu'elle allait se pisser dans la culotte, commentait les images de Kennedy et son épouse traversant le tarmac de la base de l'armée de l'air d'Andrews à Washington pour rejoindre l'avion présidentiel bleu et blanc. Elle s'extasia sur la nouvelle coiffure si mignonne de Jackie, mise en valeur par un petit béret noir désinvolte, et sur les lignes harmonieuses de son ensemble robe et chemisier ceinturé, œuvre d'Oleg Cassini, son couturier préféré. Cassini était peut-être bien son couturier préféré, mais je savais que Mrs. Kennedy avait emporté une autre tenue dans l'avion. Le couturier en était Coco Chanel. Il s'agissait d'un tailleur en lainage rose agrémenté d'un col noir. Et bien sûr, il y avait un petit bibi rose assorti. Le tailleur serait bien assorti aussi avec les roses qu'on allait lui offrir à Love Field, mais certainement moins avec le sang qui souillerait sa jupe, ses bas et ses souliers. Je suis retourné lire mes livres de poche à Mercedes Street. J'attendais que le passé tenace m'aplatisse en plein vol comme une mouche gênante, que le toit de la maison s'effondre ou qu'un précipice s'ouvre et engloutisse le 2703. J'ai nettoyé mon 38, je l'ai chargé, déchargé, renettoyé. J'espérais presque être englouti moi-même dans l'un de mes endormissements subis. Au moins, ça aurait fait passer le temps, mais ça n'est pas arrivé. Les minutes se traînaient, se changeant avec réticence en heures, chacune d'elles rapprochant un peu plus Kennedy de l'intersection de Houston et Elm Street. « Pas de somme impromptue aujourd'hui, » j'ai pensé. « Ça, ça arrivera demain. Au moment crucial, je sombrerai tout bonnement dans l'inconscience, et quand je rouvrirai les yeux, l'acte aura été commis et le passé se sera protégé. » Ça pouvait arriver, je le savais. Si ça arrivait, j'aurais une décision à prendre. Soit retrouver Sadie et l'épouser, soit revenir en arrière et tout recommencer. En y réfléchissant, je me suis dit qu'il n'y aurait pas vraiment de décision à prendre. Je n'avais pas la force de revenir en arrière pour tout recommencer. D'une façon ou d'une autre, c'était ça ou rien. La dernière cartouche du trappeur, en quelque sorte. Ce soir-là, les Kennedy, les Johnson et les Connolly dînaient à Houston, invités par la Ligue des citoyens latino-américains. Au menu, cuisine argentine, ensalada rusa et un ragoût connu sous le nom de guiso. Jackie prendrait la parole après le dîner pour une allocution en espagnol. J'ai mangé, essayé de manger, un hamburger et des frites à emporter. Après quelques bouchées, ce repas a rejoint le précédent dans la poubelle de derrière. J'avais fini mes deux romans de MacDonald. J'ai pensé ressortir mon propre roman inachevé du coffre de ma voiture, mais l'idée de le lire m'écœurait. J'ai atterri dans le fauteuil à moitié déglingué où je suis resté assis jusqu'à ce qu'il fasse noir au dehors. Puis je suis allé dans la petite chambre où Rosette Templeton et June Oswald avaient dormi. Je me suis allongé tout habillé et avec mes chaussures, le coussin du fauteuil du salon en guise d'oreiller. J'avais laissé la porte ouverte et la lumière allumée dans le séjour. Ainsi, je pouvais voir les petites filles Crayola en robe chasuble verte. Je savais que j'étais parti pour une de ces nuits qui feraient paraître courte la journée que je venais de passer. J'allais rester là, les yeux grands ouverts, les pieds pendants au bout du lit, presque à toucher le sol, jusqu'à ce que la première lueur du 22 novembre filtre par la fenêtre. Ce fut une longue nuit. J'étais torturé par les « et si » et les « j'aurais dû » et par mes pensées pour Sadie. C'était celles-ci les pires. Le manque d'elle et le désir d'elle me creusaient si profondément que j'en ressentais une douleur physique. À un moment donné, sans doute très tard après minuit, j'avais renoncé à consulter ma montre, le mouvement lent des aiguilles était trop déprimant, j'ai cédé à un sommeil profond et sans rêve. Dieu sait combien de temps j'aurais dormi le lendemain matin si on ne m'avait pas réveillé. Quelqu'un me secouait doucement. « Allez, Jake, ouvre les yeux !» J'ai fait ce qu'on me disait, mais quand j'ai vu qu'il était assis à côté de moi sur le lit, j'ai d'abord cru que je rêvais. Ce n'était pas possible. Je devais rêver. Puis j'ai tendu la main pour toucher la jambe de son jean bleu délavé et j'ai senti le contact de l'étoffe sous ma paume. Elle avait les cheveux attachés, très peu de maquillage sur le visage, et la cicatrice sur sa joue gauche était distincte et singulière. C'était Sadie. Elle m'avait retrouvée.